la découverte du patrimoine et des pépites de la Corrèze. Un podcast de Cyrielle Lagorce-Olivier, réalisé par Radio Grand Bruit.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la découverte du patrimoine et des pépites de la Corrèze. Pour le second épisode, nous accueillons à nouveau Cyrielle Lagorce-Olivier, médiatrice du patrimoine. Bonjour Cyrielle.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la vigne, de son apparition en Corrèze, à son développement et jusqu'à sa quasi-disparition au 19e siècle. C'est bien cela, Cyrielle, pour cet épisode ?
Oui, c'est effectivement l'histoire de la vigne et du vin en Corrèze que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui.
Alors oui, effectivement, en premier épisode, vous aviez commencé à nous expliquer que la vigne est apparue sous l'Antiquité en France, mais qu'on n'a pas la certitude d'une production de vin en Limousin à cette époque-là. Alors dites-nous, à partir de quand la culture de la vigne est attestée et que le vin est vraiment fabriqué en Corrèze ?
En Bas-Limousin, c'est-à-dire dans le sud de la Corrèze, plus précisément de le bassin de Brive et le bassin de Messac, les documents mentionnent des vignobles dès le VIe siècle. Donc les cartulaires des abbayes de Vigeois, d'Uzerche et de Solignac, notamment, nous renseignent sur la culture de la vigne. On sait aussi, grâce à ce type de documents, que les évêques de Limoges, qui sont devenus par la suite les plus gros propriétaires de vignes en Limousin, possédaient des vignes dans le bassin de Brive. Il est également écrit que les moines de l'abbaye de Cluny se réservaient la récolte d'un clos du terroir de Voutezac. Donc vous voyez que dès le haut du Moyen-Âge, les historiens ont identifié la présence de vignobles dans le sud de la Corrèze grâce à ces témoignages écrits.
Et est-ce qu'il y a d'autres témoignages ?
Oui, en 578, le roi des Francs, Chilpéric, décrète une imposition sur les amphores de vin, ce qui provoque une révolte en Limousin. Nous pouvons donc en déduire que si le roi met en place une imposition, c'est parce que la production et la vente de vin sont conséquentes. La révolte, elle, démontre que c'est une source de revenus intéressante, peut-être même incontournable, pour les habitants du Limousin. Autre mention intéressante datant du haut Moyen-Âge, celle de 763. C'est le roi des Francs, Pépin le Bref, qui s'empare de la forteresse d'Essandon. Il la détruit et il est dit qu'il prit également tous ses vignobles.
Alors, dans les témoignages que vous nous citez, il est souvent question d'abbaye. Est-ce que les moines ont joué un rôle dans l'implantation des vignobles et même peut-être dans le développement de la culture de la vigne ?
Effectivement, Fabien. Les religieux possédaient une sérieuse expérience dans ce domaine. Ils connaissaient justement les exigences climatiques et culturelles de la vigne pour produire un vin de qualité. Donc, les moines ont vraiment contribué à l'élaboration, mais aussi à la diffusion des méthodes de culture de la vigne.
Mais pourquoi ce sont les moines qui ont joué ce rôle ?
Alors, si la vigne se développe sous l'impulsion des religieux, c'est pour des raisons de liturgie. Jusqu'au XIIIe siècle, le vin est consommé lors de la communion, pendant la messe, mais il est aussi servi aux pèlerins et aux visiteurs en signe d'hospitalité.
Et donc, est-ce que seuls les religieux ont pu suffire à développer cette culture de la vigne ?
Alors, les seigneurs, ensuite, ont pris le relais. Puis ce sont les bourgeois, puis les artisans et les paysans qui sont devenus petit à petit propriétaires de leurs propres vignes. Alors, cela pour plusieurs raisons. La première, c'est pour leur consommation personnelle. Au XIVe siècle, le vin et la piquette sont la base de l'alimentation médiévale. La seconde, c'est pour le commerce, car le vin est une source de revenus intéressante. Et enfin, mais ça c'est très important pour les seigneurs, pour le prestige. Donc le Moyen-Âge est considéré par les spécialistes un peu comme le premier âge d'or de la vigne et du vin en Bas-Limousin.
Alors vous avez parlé de la piquette. Moi je connais que celle de mon grand-père qui boit le midi. Pour moi c'est un mauvais vin, peut-être pas à l'époque, je sais pas.
Ah oui, aujourd'hui on utilise le terme de piquette pour parler d'un vin médiocre. Mais au Moyen-Âge, la piquette était fabriquée à partir du marc de raisin. Le marc de raisin est obtenu après le pressage des grains. C'est une des premières étapes de la vinification à la suite de la vendange. Ce marc était alors placé dans un tonneau et recouvert d'eau. Et après plusieurs semaines, ce liquide devenait piquant, d'où son nom de piquette, avec un goût proche du vinaigre. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le langage courant, on parle de piquette pour parler d'un mauvais vin.
D'accord. Et du coup, les gens, ils buvaient de la piquette. Mais est-ce que le vin ressemblait à celui que l'on connaît aujourd'hui ?
Absolument pas. Le vin du Moyen-Âge était moins alcoolisé que celui que l'on consomme aujourd'hui. Et il était aussi coupé avec de l'eau. On y ajoutait des épices, voire même des fruits.
Ah oui, et si le Moyen-Âge constitue un premier âge d'or pour la vigne et le vin dans le sud de la Corrèze, comment cela se passe dans les périodes suivantes ?
Alors, la période suivante, c'est l'époque moderne. Là, on constate que la superficie occupée par les vignes en Limousin a tendance à reculer pour se concentrer véritablement sur le sud de la Corrèze. Néanmoins, ça reste une période difficile pour les vignerons corréziens et les vignerons français de manière générale, à cause des conditions météorologiques qui sont particulièrement défavorables dans le courant du XVIIIe siècle. Il y a le grand hiver en 1709, puis dans les années 1760 et 70, des orages de grêle sont fréquents, il y a des gelées de printemps, des idées pourries qui se succèdent. Rien qui soit favorable au développement de la vigne. Et par conséquent, le vin devient de plus en plus rare et son prix augmente dans le courant du XVIIIe siècle.
Et est-ce que le vignoble corrézien, après toutes ces difficultés en 1700 et 1800, est-ce qu'il va connaître un nouvel âge d'or ?
Vous avez raison, Fabien. Et cet âge d'or arrive au XIXe siècle, qui est vraiment une période propice pour le vignoble français de manière générale, et particulièrement aussi pour le vignoble corrézien. Les superficies exploitées pour la vigne s'étendent de manière considérable dans le sud de la Corrèze. Au milieu du XIXe siècle, ce sont 16 735 hectares qui sont couverts de vignes. Ce qui constitue quand même quelque chose d'important. Tout ceci est permis par l'amélioration des techniques de culture de la vigne, mais aussi par le perfectionnement des méthodes d'élaboration et de conditionnement du vin. Donc les rendements sont meilleurs. Donc cette extension des superficies accompagnée d'une amélioration des techniques ont pour conséquence un accroissement très important des volumes de vin qui sont commercialisés. Car la majorité du vin corrézien est vendu. Il est vendu à Brive, mais aussi en Xaintrie, dans le Cantal, dans le nord-est du Lot et dans le nord de l'Aveyron. Au XIXe siècle, le vin devient une des productions agricoles les plus rentables en Corrèze.
Et donc, quelles ont été les conséquences économiques de ce développement du vignoble ?
Alors, les revenus de la vigne sont 4 fois supérieurs aux autres cultures agricoles. Donc vous imaginez que la vigne en fait est devenue la principale ressource économique de la basse Corrèze. C'est aussi une culture qui demande beaucoup de main d'œuvre, donc c'est une agriculture peuplante et rémunératrice. De nombreux métiers sont sollicités, des artisans, des commerçants tels que les tonneliers, les maréchaux ferrants, les forgerons, les charrons, les sabotiers, les tisserands, etc. Enfin, voilà, tous ces métiers sont aussi indispensables à la culture de la vigne et à l'élaboration du vin. Donc, vous voyez que la vigne n'a pas que des conséquences positives pour l'agriculture, mais aussi pour l'artisanat et le commerce. Et je pense qu'on peut dire qu'il se crée aussi une sorte de culture autour du vin. En effet, les paysans vont avoir tendance à se regrouper dans de grands villages et ils vont s'entraider pendant les vendanges.
Donc on peut dire que, pour résumer, le développement de la vigne a eu des conséquences, comme vous l'avez dit, à la fois économiques, mais aussi démographiques et sociales. Et est-ce qu'on peut dire que la culture de la vigne a aussi marqué le paysage ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, elle implique la concentration des vignerons dans des gros villages. Donc apparaissent alors des maisons de vignerons qui sont à la fois des logements et des lieux de production. Donc au rez-de-chaussée, on va trouver le cellier avec une grande cave qui sert à la fois à la fabrication et au stockage du vin. Les murs sont épais, le sol en terre battue, de manière à obtenir une température et une hygrométrie constantes. Deux petites fenêtres ou des soupiraux permettent l'aération de ces caves. Tandis qu'à l'étage, il y a l'habitation avec une grande cuisine et une ou deux chambres. Il est rendu accessible par un escalier extérieur, souvent prolongé par un perron ou une terrasse. Outre l'habitat, le paysage est également marqué par la présence des vignes sur les coteaux. Mais attention, ce n'est pas la seule culture. À côté, il y a également des cultures vivrières, des cultures de céréales et de légumes. Il y a aussi les prairies pour l'élevage, également des bois qui vont être utiles pour le chauffage et la construction. Donc on a un paysage qui est relativement proche de celui d'aujourd'hui, si ce n'est qu'il faut imaginer que la vigne est très présente sur ces communes, sur les communes telles que Voutezac ou Branseille, où là elles occupaient près d'un quart de la superficie communale.
Et donc au XIXe siècle, vous l'avez dit, la vigne est très présente dans le paysage, mais est-ce qu'elle est aussi à l'origine d'un riche petit patrimoine ?
Oui, les maisons de vignerons dont je viens de parler, mais également les cabanes de vigne. Alors, ce sont des maisonnettes, généralement en toit d'ardoise, qui permettaient à deux ou trois personnes de se protéger en cas de pluie. Elles servaient aussi à entreposer les outils. Et à l'extérieur, à proximité de la cabane, se trouve souvent un bac qui permettait de recueillir les eaux de pluie utilisées pour la préparation de la bouillie bordelaise.
Merci beaucoup, Cyrielle. Lors du prochain épisode, nous allons découvrir ce qui a causé la chute de la culture de la vigne en Corrèze. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.